Balado Gazette, la plateforme de diffusion de création radiophonique vous propose Culture 5. Bernard Laurent, c'est à vous.
Bonjour à tous et à toutes et merci de votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire. Que serait le Culture 5 d'aujourd'hui sans Jean-François Rechner, Édouard Jouan, Marie-Sophie Friot et Magdelaine? Et la meilleure réponse à cette question, eh bien, c'est de rester à l'écoute des chroniques à suivre. Nous sommes le 11 novembre 2022 et j'ai demandé à Georges Brassens d'écrire l'éditorial de ce magazine. Il en a même fait une chanson.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerre notoire, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non, fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
C'était ma contribution au traitement de l'actualité. Et justement, à ce propos, Jean-François Rechner nous parle des métiers qui ne le sont plus, sauf certains.
Notre société évolue, que ce soit subi ou voulu, sous un toit ou dans la rue. Des métiers ont disparu, d'autres voient le jour en un cycle durant toujours. Fini les herboristes, même si ça nous rend triste. Avec eux, les marchands d'herbes n'en promènent plus les gerbes. Le ramasseur de crottes ne remplit plus sa hotte. Nous admirions en son sanctuaire le travail de la matelassière qui, il y a plus d'un quart d'heure, quitta son collègue le quart d'heure. La bonne marchande de soupe remplissait bols et soucoupes, aidant la marchande d'arlequins qui nourrissait tant de gens, des pauvres et des indigents, ayant peu de sous, voire aucun. L'allumeur de réverbère les mouchait à l'aube hier. Le porteur d'eau, la porteuse de pain, si une grande soif ou une petite faim nous prenait, nous soulageait illico comme leurs collègues à Coajolo. La marchande de plaisir, ces gâteaux qu'on pouvait choisir. On ne voit plus de chiffonnier, pas plus que de charbonnier. Le marchand de peau de lapin ne crie plus dès le matin. Peau de lapin, peau, peau de lapin, peau, comme le père Lapouille, dans un refrain de Gérard Pierron et Alain Leprest, je crois. C'est tout ce qu'il en reste. Au théâtre, gagiste, feutier, leurs bons soins, n'en a-t-on vraiment plus besoin ? Devant le théâtre, grâce aux décrotteurs, les carrosses rendus propres à toute heure. Bien d'autres qu'on peut citer en vrac sans les mettre dans le même sac. Raccommodeurs de sabres, mécanographes, télégraphistes, beurriers, dactylographes, mireurs d'urine, placeurs de quilles, moucheurs de chandelles, attrapeurs de rats, crieurs, loueuses de sangsues, le poinçonneur, laitier, lavandière, le réveilleur, gardien de phare, groom, badeste à minier qui, en grosse laine, tricotait des bas. Ah ! L'ange gardien, utile pourtant, le rhabilleur de meule qu'on aimait tant, emploi disparu sans débat, pire qu'un article 49.3. L'un d'entre eux, peut-être, un jour reviendra. Cette liste non exhaustive, je l'ai dressée d'une main hâtive. Quelques jobs, on pouvait s'y attendre, vrais phénix sont renés de leurs cendres. Le barbier que rien n'arrête a repris du poil de la bête. Revenu sur nos beaux marchés, le rémouleur nous avait lâchés. Mais nostalgie ne fait pas loi. J'aimerais la fin de certains emplois. Il en est que je verrai disparaître en explosant l'applaudimètre. Quand s'éteindront bourreaux, dictateurs, mercenaires, inquisiteurs, pirates de tous bords, hackers ou autres tortionnaires et égorgeurs ?
Dans les grandes maisons de couture, il y en a qui sont trottins, ou bien vendeuses, et par nature, il y en a qui sont mannequins. Il y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surjets. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire les robes en biais. Pour bien biaiser une robe, ma foi, il n'y en a pas deux comme moi. Je suis biaiseuse chez Paquin, je biaise du soir au matin. L'éveiller c'était mon bonheur, je suis pas pour la journée de 8 heures et le travail de nuit ne me fait pas peur. Je suis biaiseuse chez Paquin, pour mon métier j'ai le béguin. Quand mes parents me voient pas rentrer, ils disent y a pas à s'inquiéter, elle est encore en train de biaiser. Quand j'entrais dans la partie, ce fut une révolution. Dès le commencement, je me suis sentie une très grande vocation. La première fois, comme d'usage, il y eut du tirage un peu. Mais quand j'eus perdu mon tirage, je m'y mis avec feu. À mon métier, je prenais goût, je voulais biaiser un peu partout. Je suis biaiseuse chez Paquin, je travaille hors du magasin. J'emporte de l'ouvrage quand il faut, je biaise en voiture, en auto. Une fois même j'ai biaisé dans le métro. Avec ardeur, avec entrain, mais le docteur qui est venu l'autre matin m'a ordonné des tas de sirop, m'a dit qu'il fallait prendre du repos. Ben, il a trouvé que je biaisais trop. Je vais m'installer bien vite, me marier, quel bonheur, avec un jeune homme plein de mérite, qui est ouvrier plisseur. Pour nous installer à l'aise, comme nous n'avons pas le sou, je biaiserai d'abord sur une chaise, et lui plissera tout debout. Principal c'est qu'il n'y ait pas de retard, qu'on dise pas que je biaise en canard. Je suis biaiseuse chez Paquin. Mon homme plissera dans le magasin. C'est ça qui sera gentil, ma foi. On fera tout l'ouvrage chez moi en s'entraidant comme chacun le doit. Avec ardeur, avec entrain, nous nous partagerons turbin afin de ne pas nous esquinter. Sitôt que j'aurai fini de biaiser, celui qui se mettra à plisser.
Eh oui, Jean-François, parmi les métiers disparus, vous avez omis de citer la biaiseuse, mais Annie Cordy vient de nous le remémorer. Vous écoutez Culture 5, le magazine de la rédaction de balado-gazette.fr, et je vais tenter de restituer un poème que nous a envoyé Édouard Jouan. Par ces temps de clarté nocturne, pourquoi ne pas évoquer Pierrot ? C'est au clair de la terre que mon ami Pierrot me prêtera sa plume pour dénoncer les maux. Tous les maux de la terre, les petits et les gros, qui gâchent l'atmosphère et font froid dans le dos. J'en ai fait un brouillon, une liste complète, sans oublier les maux d'enfant, les maux d'amour, les maux d'esprit, les maux d'amant et tous ces maux furtifs qui s'obstinent à rester sur le bout de la langue qui veut les savourer. De plus en plus longtemps. Ensuite, je ne conserverai pour mon ami Pierrot que les mots de bonheur, de paix et d'amitié. En soignant de mon mieux les plaints et les déliés, patiemment appliquer des rondeurs rassurantes d'une paix retrouvée, légère et apaisée. Quand ce sera fini, je poserai ma plume et pourrai tout là-haut, sur mon croissant de lune, contempler à loisir d'un œil voluptueux la course dans l'espace d'un clair de terre radieux. Les mots et les mots. L'orthographe de la langue française est parfois espiègle entre les mots, M-O-T-S, et les mots, M-A-U-X. À vous de faire votre choix. Mais comment, par exemple, comment faire la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur? Ou bien entre un bon politicien et un mauvais politicien. Il me semble que Finette, elle, a trouvé la solution.
Hello, le monde qui titube, c'est moi, Finette. Oh, j'ai eu un peu de mal à revenir sur les ondes, car je suis un peu, comme qui dirait, contrariée. Oh, un bien joli mot pour ne pas dire énervée. Non, pas fâchée. Rien qu'un peu irrité. En son temps, vous vous souvenez des humoristes les Inconnus et de leur interview des chasseurs de galinettes cendrées? Eh bien, moi, Joséphine dite Finette, je me dis, comme les chasseurs, qu'est-ce qu'un bon homme politique? Il y aura à dire, hein, vous trouvez pas? Car en plus de faire ou de ne pas faire, ces gars-là, ils causent, ah, ils causent, ils causent. Et eux, qui sont censés être le haut du panier, ils nous prennent souvent pour des imbéciles profonds. Tiens, il y a un gars en costard-cravate, de ceux-là dont je parlais à l'instant, il nous a dit la semaine passée que chez les migrants, il y avait des gentils et il y avait des méchants, et qu'on serait gentils avec les gentils et méchants avec les méchants. On se croirait dans une cour de récré, hein, ou dans un jeu vidéo bien manichéen. Ce qui est rassurant, c'est que désormais, on va veiller à ne garder que les gentils. Alors j'imagine qu'à leur arrivée en France, outre de savoir si les migrants causent bien la France, oh, chacun sait qu'avant de t'enfuir de ton pays, t'as pris le temps d'apprendre très bien, parfaitement la langue française et toutes les subtilités de l'administration locale. Eh bien, ces gars-là, on leur fera passer aussi un test pour déterminer s'ils sont gentils ou méchants. Ah, va falloir qu'on m'explique comment qu'on les distingue, hein, par le physique, la religion, la langue, le pays d'origine, les vêtements, leur humeur, leur CV. Une fois prouvé qu'ils sont bien gentils avec nous autres, eh ben, de notre côté, nous, les Français, on va être très très gentils. Ce qui veut dire qu'on va leur donner tout de suite des papiers, un toit, du travail. Alors, l'autre bonne nouvelle, c'est que tous les boulots mal payés, éreintants, sous-considérés, vont pouvoir leur être proposés. Ce qu'on appelle des métiers sous tension. Aide à domicile, agent d'entretien de locaux, aide-soignant, serveur, employé d'hôtellerie, restauration, manutentionnaire, ouvrier des travaux publics, du béton, de l'extraction. Dans les années 70, on se souvient des jobs de bonne et de balayeur qui ont fait le bonheur des Portugaises et des Sénégalais. Bon, je m'égare. Je reviens à mes bonhommes politiques. Oh, ils ont pas de logique, hein. Voilà que pas plus tard qu'il y a pas longtemps, il y en a un qui dit à l'autre qu'il retourne en Afrique. Mais dis donc, toi le petit blanc, t'as oublié que si on les fait tous retourner d'où ils viennent, même les gentils, eh ben bientôt, on pourra plus avoir de femme de ménage, hein, être servi dans les restos, construire sa nouvelle maison, se faire soigner à l'hôpital. Ah oui, parce qu'ils sont partout, hein, sans compter que il y en a même qui sont insinués dans des métiers qui ne sont même pas sous tension. Ah, peut-être que nos politiques comptent les muter. Bon, en tout cas, moi je suis pas bien fier de nos Français très français, mais tous sans doute très très gentils, hein. Il ferait mieux de faire du tri dans leurs rangs plutôt qu'aux frontières.
Σε τους θεούς τον ίδιο το Χριστό το καλοκαίρι εκεί εδρεμεί το γερό μέσα στη λίμνη αυτή το αίμα τους αιώνες κάλυσε εκεί τα βαράχια και τους σκάβους και τη βαθιά σιωπή. Νησιά σαν περιστέρια αιώνιες φυλακές. Το καλοκαίρι εκεί δρέμει τις βροχές μες στη Μεσογείο. Χάνονται στη φωτιά. Τα χέρια μένουν μόνα κι άδεια τα κορμιά. Λαοί της σύμφορας και πίκαρα του θανάτου. Το καλοκαίρι εκεί δε χάνει τα φτερά του μες στη Μεσογείο. Στη λίμνη αυτή γεννήθηκα κι εγώ. Μεσόγειο του φόβου και των πικρών καιρών. Τα όνειρα που παίζανε στα βαθιά νερά γίνηκαν δέντρα μόνα στα ξερά νησιά μες στη Μεσογειό. Το Παρθενόν ακρύβουν σύννεφα βαρία, στην Ισπανία χάθη λέξη λευτερία. Άννα η Αθήνα με νι όνειρο πικρό, το καλοκαίρι κι γέδερε μη το γερό μες στη Μεσογειό.
Mélina Mercouri, en Méditerranée, où encore et toujours des bateaux cherchent des ports d'accueil, je n'en dirai pas plus. Mais restons en mer, si vous le voulez bien, avec Magdeleine qui fait revivre pour nous la triste histoire du plus grand voilier français. C'était il y a un siècle du côté de la Nouvelle-Calédonie.
Ne m'appelez plus jamais France. La di da da, la 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 la. Non, je ne vais pas vous parler du paquebot France que chantait Michel Sardou. Non, non, je vais vous parler du France 2, connu pour être le plus grand voilier du monde pendant 77 ans. Il demeure encore aujourd'hui l'un des plus beaux fleurons de la marine française. Il y avait eu avant lui, en 1890, un autre voilier marchand surnommé La France. Un des plus grands voiliers cap-horniers du monde, mais en 1901, il subit un violent coup de pampero qui le fit sombrer au large du Brésil. 10 ans plus tard, en plein âge d'or de la marine à voile, on construit dans les chantiers de la Gironde près de Bordeaux un navire marchand hors du commun, qui est lancé le 9 novembre 1911. C'est le France 2. Un voilier gigantesque, 5 mâts à coque et mât d'acier, aux dimensions jamais égalées. 144 mètres de long, sur 17 mètres de large, très grande surface de voilure. Il est pourvu également de 2 puissants moteurs Schneider de 900 chevaux, ce qui lui permit d'éviter par la suite les torpilles et d'échapper à un sous-marin allemand qu'il avait pris en chasse durant la Première Guerre mondiale. Comme tous les voiliers de la compagnie prend tout le blond, le France 2 est affecté à la ligne de Nouvelle-Calédonie pour le transport du nickel en Europe et celui du blé d'Australie après la guerre de 14-18. Moderne, fonctionnel et avant-gardiste, ce voilier est le seul à posséder à bord la TSF, ce qui lui permet de bénéficier des bulletins météo auprès des vapeurs circulant dans les mêmes parages. Il est éclairé à l'électricité, possède une chambre froide et un système de chauffage à vapeur. Il peut même recevoir quelques riches passagers luxueusement installés, car à l'époque, les médecins préconisent les longs voyages marins pour combattre les affections pulmonaires. Il serait trop long de vous raconter la fabuleuse histoire de la courte vie du France 2. Il affronta pourtant tous les dangers, les grosses tempêtes, un ouragan, les menaces d'iceberg et la guerre. Mais juste après la guerre, l'armateur Prantoux décède. C'était le père de France 2. Des discussions s'engagent alors à propos des deux moteurs. Le temps presse. Il faut rentabiliser au maximum les traversées. Il est donc décidé de retirer les moteurs et leurs hélices qui retardent la marche de la voile. Par la suite, l'immense voilier fait des traversées presque aussi belles que celles effectuées avec l'aide des moteurs. Lors du 8e voyage, avant son retour en Europe, il doit repartir vers Plouembou pour chercher une cargaison de nickel. Mais dans la nuit du 12 au 13 juillet 1922, sous une pluie battante, le France 2, sans moteur, est abandonné par le vent. Ballotté par la houle et de puissants courants, il finit par s'échouer, encastré sur les récifs de Teramba, au large de Nouméa. Cela fait 100 ans cette année. Les journaux publièrent des photos prises un mois après l'échouage avec ces commentaires. Le France 2 était à ce moment-là en parfait état. On est surpris qu'il n'ait pas été possible de le renflouer. La coque ne paraît pas avoir souffert, la mâture n'est pas ébranlée, le gréement est en ordre. Le navire a l'air plutôt au mouillage qu'échoué sur les récifs de corail. La compagnie française, estimant qu'elle perdrait trop d'argent pour sauver le France 2, décida de l'abandonner. Dépouillé de tout ce qui pouvait être récupérable, il fut pendant 22 ans un sublime fantôme, guidant à son insu d'autres navires. En 1944, l'armée américaine l'utilisa comme cible d'exercice aérien. Un bout d'épave était encore visible en 2006, pitoyable vestige d'une fin peu glorieuse qui laisse cependant des vagues de souvenirs et des regrets. C'était pourtant le plus grand voilier du monde. « Ne m'appelez plus jamais France. »
Merci Magdeleine de nous avoir raconté le sort peu enviable des célébrités qui finissent par échouer sur les récifs du réel. Amis auditeurs, je vous laisse tirer les conclusions. Tout autre chose, et pour clore ce magazine, je vous propose de prendre encore plus de hauteur avec Canopée, un titre de Polo et Pan, un duo de musique électronique matinée de notes tropicales, et ça date de 2016. Polo et Pan, Canopée. Culture 5, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Jean-François, Édouard, Marie-Sophie et Magdeleine. On se retrouve la semaine prochaine, mais quand vous le voulez, sur balado-gazette.fr. D'ici là, portez-vous bien et à ciao! Exuberant.